à prendre votre Bible. Et nous ferons la lecture ce matin dans le livre de la Genèse, chapitre 2, les versets 4 à 7. Genèse, chapitre 2, les versets 4 à 7. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel, Dieu, fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans chacun de nos cœurs. Je voudrais ce matin souhaiter la bienvenue à notre pasteur Jean-Paul Vimbouli. Nous commençons à prendre la bonne habitude de l'avoir avec nous, mais nous avons sa femme plus rarement. Et je voudrais spécialement lui souhaiter la bienvenue à l'église Sampon. L'église est grande ouverte, tu reviens toutes les fois que tu veux.
Voilà, frères et sœurs, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, nous entrons dans la préparation de cette campagne d'évangélisation du mois d'octobre et nous ne sommes pas forcément en avance. Mais nous allons mettre les bouchées doubles, là il le faudrait. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous aurons besoin, nous avons déjà besoin de votre collaboration. Donc si vous n'avez pas eu cette feuille, n'hésitez pas à le demander à notre ami Gilbert Branchou, qui se fera un plaisir de vous le remettre. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de votre avis. Et s'il y a un choix, s'il y a un sujet qui vous semble pertinent et qui n'y figure pas, les sujets sont regroupés ici, hein, donc présentés d'une manière quelque peu générale. Donc n'hésitez pas à rajouter, mais je compte sur vous pour nous faire le retour de cela. Et il y a des sujets que nous aimerions pouvoir tester, comme actuellement notre société connaît cette controverse et qui est devenue très conflictuelle, voire même très agressif au sein de la société, le sujet de la création et de l'évolution. Ce matin, j'aimerais faire un test avec vous. Et aborder un aspect. Ensuite, avoir votre retour, nous aurons l'occasion d'échanger cela afin que nous puissions ensemble étudier et que ce soit véritablement un projet d'équipe, un projet en commun, même concernant le choix des sujets et la présentation. Donc, il s'agit ici d'un point quand même épineux et il est bon que je puisse avoir justement votre avis là-dessus. Ok, donc il s'agit d'un matériel brut que j'aimerais présenter là, du moins un aspect. Et ensuite, j'aurai l'occasion d'ajuster, de réajuster par rapport à ce test que je fais avec vous ce matin. Je pense qu'on est sabbat dans l'adoration, il n'y a pas meilleur sujet que le sujet effectivement de la création. Il s'agit aussi pour moi d'évaluer la transmission pédagogique. Il y a des sujets comme ça, vous savez, on a la connaissance, on peut même maîtriser la connaissance d'un sujet, mais pas forcément la transmission pédagogique, pas forcément la pédagogie. C'est là donc qu'il va falloir qu'on travaille et il faut qu'on travaille ensemble. Ok ? Mais avant cela, j'aimerais, puisque j'ai eu l'occasion de vous dire qu'il y aura un jeune pasteur, un stagiaire, il sera stagiaire pendant 2 années, il va commencer ici même dans ce territoire de Sud-Léo, il aura l'occasion de travailler en étroite collaboration avec le pasteur Harry et avec moi-même, ce qui fait que dans ce projet, l'équipe pastorale va être encore renforcée.
Donc, dans ce projet que nous avons, nous renforçons l'équipe pastorale, pasteur Harry, moi-même et le pasteur, nouveau pasteur, donc Frédéric Saminadin, si vous ne le connaissez pas. Donc, le voilà, il termine bientôt, il est jeune. Et je pense que d'ici début juillet, il pourra commencer à travailler avec nous dans tout ce secteur. Je le connais bien, Frédéric, même s'il s'appelle Saminadin, ça n'a pas de lien de rapport familial avec la famille Saminadin que vous connaissez à Saint-Pierre. Voilà. Il est marié à Lisby, demoiselle Boyer. Vous avez sa femme ici. C'est un couple très sympathique. Je pourrais vous en dire pendant un bon moment tout le bien que je pense, mais je vous laisse le soin vous-même de découvrir ce couple-là. Et j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à l'avoir parmi vous. C'est un jeune qui est très consacré au Seigneur et je pense qu'il pourra apporter une bonne contribution aussi au niveau de la jeunesse. Voilà, donc ça c'est normalement, si tout se passe bien, début juillet. Bien, venons-en à notre sujet. Il faut savoir que l'Église adventiste est en train de réviser, non pas sa position sur le point de la création, mais la formulation. Pour vous dire à quel point la formulation peut être extrêmement importante. Il y a un comité de révision de la formulation de nos doctrines qui travaille encore. Et en octobre, ils ont rendu un rapport là-dessus, un rapport partiel là-dessus. Et je voudrais partager avec vous juste une formulation concernant justement le point de la création. C'est la croyance fondamentale numéro 6. Jusqu'à présent, on disait donc en 6 jours, le Seigneur a fait. Il voudrait renforcer encore davantage notre position. Et vous voyez qu'on n'élimine pas notre position. Au contraire, on affirme courageusement, okay, à remplacer par dans une création récente. Okay. En 6 jours, le Seigneur a fait. Ça veut dire que pour nous, il n'est pas question de millions ou de milliards d'années de l'existence de vie sur cette planète. Pour nous, tout cela est une affaire récente. Et ça va même jusqu'à donc réfléchir sur des suggestions possibles s'il ne faudrait pas mentionner en 6 jours littéraux. Parce que vous avez bien compris que le christianisme en ce moment est en train de faire une sorte d'alliance avec une position scientifique, mais en fait c'est assez pseudo-scientifique, où on fait un genre d'amalgame que Dieu a bien créé toute chose, mais à travers l'évolution. Donc là, on commence à mélanger évolution et création. La position de l'Église adventiste, c'est une position très tranché, effectivement, où on ose, et vous savez, hein, en proclamant les choses comme cela, courageusement, la conférence générale assume une position. Okay? Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'Église adventiste croit fondamentalement aux 11 premiers chapitres du livre de la Genèse et aux 2 premiers chapitres particulièrement du livre de la Genèse avec la création. Or, si vous avez une position fondamentale, littérale, d'acceptation de ce sujet, ça veut dire que vous êtes rangé du côté des fondamentalistes. Et être fondamentaliste, c'est être dans la société considéré comme dangereux. Pourquoi? On aura l'occasion justement peut-être par la suite de développer un peu ce point. Non seulement dangereux, mais fada, taré, enfin, toutes sortes de mots, hein, est mentionné pour vous dire à quel point la position scientifique est assez agressive envers ceux qui croient encore, disent-ils, qui croient que la création a été faite en 6 jours. Voilà, l'Église adventiste assume. Il va falloir que nous aussi nous puissions assumer. Mais comment? Comment, au sein d'une société française, comme celle de La Réunion, pouvoir transmettre un point de vue différent, un point de vue opposé, sans être agressif? Parce qu'il ne faut pas qu'à notre tour, nous imitions le comportement de ceux d'en face. Comment, dans une circonstance et transmission apaisée, nous puissions assumer et transmettre notre position d'une manière claire, d'une manière nette, d'une manière biblique. La chose n'est pas aisée. La chose, tellement les médias se sont emparés de l'affaire, mais l'éducation nationale aussi, pour tout le monde, okay, il n'y a même pas à discuter, c'est l'évolution. L'homme est le produit d'une longue évolution. On ne discute pas. Si tu discutes, si tu commences à dire que Dieu est créateur et que tout cela a été créé, tu es fou, tu es un taré, tu es un débile, tu es tous ces mots sont sortis sur des chaînes de radio nationales, hein, de l'État, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est pour vous dire. Pourtant, écoutez bien, si on élimine la création, toute la position adventiste s'écroule. Il est impossible de défendre la foi adventiste. Et d'ailleurs, si ce matin nous sommes là, si nous nous réunissons le septième jour de la semaine, c'est bien parce que nous avons une adhésion sur la création. Le sabbat ne tient que par rapport à la création. Alors, venons-en justement pour commencer là-dessus. Si nous regardons les 10 commandements, le 4e commandement, regardez bien comment dans la Bible les 10 commandements sont, enfin, le 4e commandement est formulé. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait. Et vous constatez qu'il y a là un verbe qui doit retenir notre attention, que les 10 commandements, le 4e, ne dit pas que l'Éternel a créé, mais l'Éternel a fait. Et ça, c'est une nuance qui est importante lorsque nous nous positionnons sur le fait, sur la base de la création. A fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, seulement avec ce verbe, nous comprenons à quel point le sabbat est lié à la semaine de la création. Pourquoi est-ce si important? On va essayer d'échanger cela ensemble. Je vous propose donc que nous puissions revoir les premiers versets du livre de la Genèse, de toute la Bible en fait, hein, les premiers versets de la Bible, les trois premiers versets de la Bible. Vous les connaissez pratiquement par cœur, c'est pour ça que je l'ai mis ici pour gagner un peu de temps dans notre timing de ce matin. Voilà ce que nous lisons. Verset premier, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Créa les cieux et la terre. Deuxième verset. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et à partir du verset 3 commence la semaine de la création, Dieu dit que la lumière soit. Je m'arrête là, je pense que c'est largement suffisant pour ça. Revoyons les trois premiers versets. Le premier verset, le verset 1, vous donne une information sur Dieu. Dieu est créateur. Mais un verbe est utilisé ici, c'est le verbe créer. C'est le verbe bara. Ça veut dire que Dieu est capable d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Mais d'amener à l'existence quelque chose ou des créatures qui se situent en dehors de lui. Prenons par exemple la divinité, le Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils, comme le Saint-Esprit, existe à l'intérieur de la divinité. Donc cela n'entre pas dans le bara, dans le créa, parce que ce n'est pas la création. Le Fils et le Saint-Esprit peuvent s'exprimer en dehors, mais appartient à l'intérieur de Dieu. Tandis que ce que Dieu crée, c'est-à-dire le verbe créa que vous avez ici, le verbe bara, ça veut dire amener à l'existence quelque chose qui n'est pas en nous, en dehors de nous. Donc Dieu est capable de faire cela. C'est la création. Ainsi donc nous comprenons que Jésus n'a jamais été créé. Le Saint-Esprit n'appartient pas à la création. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui a été amené à l'existence à partir en dehors de Dieu. Du dehors de Dieu. Ça, c'est une information sur Dieu. Le verset 2, c'est une information sur l'état de la terre. Comment est la terre? La terre est informe et vide. Autrement dit, la terre ne peut pas produire, la terre ne peut pas accepter, ne peut pas donner la vie. Il n'est pas possible de vivre sur la terre. Ça, c'est la deuxième information. Première information sur Dieu. Dieu est créateur. Deuxième information, la terre. L'état de la terre. Et écoutez bien maintenant. La terre va rester dans cette situation si Dieu n'intervient pas. C'est-à-dire, si celui qu'on nous a présenté dans le premier verset, il n'intervient pas. La terre va rester comme telle. Et ça peut rester comme telle des millions ou des milliards d'années. Tant que Dieu n'intervient pas, il n'y a pas de vie possible sur la terre. Voilà les deux premières informations. Troisième verset va nous donner l'information sur l'intervention de Dieu. Autrement dit, le verset 1, Dieu rencontre, le verset 2, la terre. C'est le contact. Il a fallu une intervention de Dieu pour que la vie soit possible. Car regardez par exemple la planète Vénus, il y a aussi toute une masse de gaz autour. Mais la masse de gaz est toxique, il est impossible. De toute façon, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu avait un plan pour la Terre et il va intervenir. S'il n'intervient pas, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de la nature, il n'y a rien du tout. Dieu doit intervenir. Voilà les trois informations que ces versets nous donnent et qui seront développés par la suite dans la Bible. Parce que tout ce que j'ai ajouté, c'est le développement que nous trouvons dans la parole de Dieu. Mais toute la Bible s'ouvre par cela. Okay? Aucune vie possible si Dieu n'intervient pas. Voilà. Maintenant, je vous propose donc que nous puissions revoir cette intervention de Dieu-là. C'est-à-dire les six jours de la création. Vous les connaissez, hein, on apprend ça depuis l'école du sabbat des enfants. Vous avez les six jours ici. Hein, le premier jour, l'apparition de la lumière. Le deuxième jour, vous avez l'atmosphère, ce qu'on appelle l'étendue ou le ciel. On sépare les eaux. Ce qui dégage l'atmosphère, avec l'azote, l'oxygène qui est dans l'air, il est possible de respirer. Donc Dieu crée les conditions pour pouvoir cela, et ce qui fait que donc nous avons le troisième jour, la mer, les eaux qui sont en bas, mais en bas il va falloir séparer les eaux pour avoir le sec. Il faut simplement séparer pour avoir le sec, et on a la terre, la mer et l'apparition des végétaux. Quatrième jour, vous avez l'apparition de la lune, soleil et étoiles. Cinquième, les oiseaux, donc les animaux qui volent, et puis les animaux aquatiques dans la mer. Et le sixième jour, vous avez les animaux terrestres et l'homme. Qu'est-ce que vous constatez d'emblée lorsque vous prenez le premier chapitre de la Genèse? Qu'il y a un lien entre les trois premiers jours, et les trois jours suivants. C'est-à-dire, donc, prenons par exemple une structure bien élaborée. Le premier jour prépare le quatrième. Le premier jour, vous avez l'apparition de la lumière. Le quatrième jour, vous allez avoir les astres qui vont présider. Remarquez bien, hein, ces astres vont présider la lumière. Ensuite, le deuxième jour, vous avez la séparation des eaux, ce qui va vous donner l'atmosphère, le ciel, et en bas, la mer. Parce que vous avez le cinquième jour, okay, donc le cadre a été créé pour recevoir les oiseaux et en bas pour recevoir les poissons. Ensuite, le troisième jour, vous avez la mer, la terre et les végétaux. Vous avez compris, c'est donc le cadre pour recevoir les animaux terrestres et la vie de l'homme sur terre. Autrement dit, les trois premiers jours préparent le cadre, mais le cadre en place. Et les trois jours suivants, vous avez donc ceux qui vont résider à cela. Qu'est-ce que nous pouvons retirer dans un premier temps? C'est que, un, la révélation biblique sur le thème de la création est une révélation extrêmement structurée et qui nous montre que Dieu a une intention. Dieu procède toujours à l'avance par intention. Il crée le cadre, ensuite il met dedans l'élément qui doit s'y retrouver. Ça va? Ça montre donc qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Les choses sont faites et sont révélées de la même façon afin qu'il y ait un ordre des choses. Mes amis, la révélation biblique est extraordinaire. Le Saint-Esprit n'orchestre pas une révélation qu'en écrivant les choses dans le désordre. Les choses sont écrites dans l'ordre, okay, des actions de Dieu. Ça va pour ça? Alors, maintenant, quand nous regardons, puisque nous parlons de l'ordre, lorsque nous regardons maintenant la chronologie biblique, que nous prenons la Bible et que nous regardons la chronologie biblique, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que cette création, elle est récente. Elle ne date pas de très longtemps. 6000 ans, ou peut-être un peu plus, 7000 ans, 7500, mais je doute que ça aille beaucoup plus loin. Autrement dit, donc, ça, cette semaine de la création-là, ça, c'est récent. C'est-à-dire, donc, 6000 ans, 7000 ans, voilà, seulement. La communauté scientifique n'est pas d'accord. Il conteste cela, il rejette cela. Pourquoi? Simplement à cause du fait de la datation radiométrique. Qu'est-ce que c'est que la datation radiométrique? C'est le système par lequel les scientifiques calculent l'âge de la Terre, des roches, ou voire même de tout le système solaire, puisque donc notre Terre est située dans un système solaire. On appartient à un corpus, à un ensemble. Lorsque les scientifiques font ce calcul, ils ont constaté que pas seulement la Terre, c'est-à-dire la planète Terre, avec les roches qui s'y trouvent, les minéraux, mais l'ensemble même de notre système solaire, vous avez le Soleil et les planètes qui sont autour, plus quelques satellites, que l'ensemble même du système solaire, comment on le sait, par les météorites qui sont tombées sur la Terre, par exemple, on les a aussi calculés, soumis à ce système de calcul, avec la poussière lunaire, la poussière de la Lune, on a fait le calcul et on a constaté que on arrive à une même date, à un même chiffre pour tout le système solaire et la Terre compris dedans. C'est-à-dire, ils arrivent au chiffre de 4 milliards 500 millions d'années. Voilà, ils arrivent à ce chiffre-là. Quand on calcule, on ne peut pas faire autrement, on tombe là-dessus. Ok, 4 milliards 500 millions d'années. Et le problème qui va se poser du côté de la science, c'est ceci. C'est que pour eux, si la matière a cet âge, donc l'apparition de la vie a aussi cet âge-là. C'est-à-dire, ils font un amalgame entre la matière, l'âge de la matière, et l'âge de l'apparition de la vie. Ils disent que si la matière est âgée de 4 milliards 500 millions d'années, donc la vie sur Terre a aussi le même âge. Même. Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour faire cet amalgame-là. Mais le fait est comme ça. On ne leur demande pas des preuves à eux. S'ils le disent, c'est comme tel. Ça, c'est leur position. Maintenant, la position du croyant de la Bible, ceux qui s'attachent à la Bible, eux, ils ne mélangent pas ça. Pour eux, il peut y avoir une différence entre l'âge des matériaux, du matériel, les minéraux ou autres, et l'apparition de la vie, l'âge de l'apparition de la vie. Il y a une séparation, il y a une distinction entre les deux. Autrement dit donc, les choses peuvent avoir, ou la planète Terre être apparue bien avant, mais les 6 jours de la création être apparus après. D'ailleurs, on est conforté encore davantage là-dedans par l'utilisation de 2 verbes que nous trouvons dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre justement du livre de la Genèse. 2 verbes se trouvent être utilisés. Quand par exemple vous avez en français le mot « créer », c'est le mot « bara ». Le « bara », c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la création ex nihilo. Qu'est-ce que la création ex nihilo? Ça veut dire que la chose n'existait pas du tout auparavant. Et maintenant, ça vient à l'existence. Dieu est capable, à partir de rien, de créer. Un verbe qui semble être synonyme, c'est synonyme. Seulement, quand on fait la nuance, ben, il faut nuancer. Le verbe « assa » qui donne en français « faire » et Dieu fit l'étendue, le mot « faire », ce n'est pas créé à partir de rien. C'est organisé à partir de quelque chose qui existe déjà. C'est le mot « assa ». Et quand vous regardez la semaine de la création, quand vous regardez le texte même de Genèse 1, vous allez constater que le mot « bara » ou « créer » est utilisé dans le verset premier. Tandis que la semaine de la création met l'emphase ou l'accent sur le mot « assa ». Ça veut dire que cette semaine de la création, Dieu a organisé la vie. Prenons par exemple, vous avez une Bible, votre Bible sous la main, Genèse chapitre 1er. Très rapidement, je ne m'attarde pas trop. Verset 7 par exemple. Et Dieu fit l'étendue ou l'atmosphère. Voyez le mot faire est ici. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une masse d'eau, sous forme de vapeur certainement, qui englobait la planète Terre. Mais l'atmosphère existait, mais était cachée par cette masse. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il sépare simplement et ça fait apparaître l'autre. Donc, en quelque sorte, voilà, on utilise ici le mot « faire » parce que la chose est là, brute ou... mais en tout cas, est là, il faut juste faire apparaître. Prenons par exemple le 4e jour, le verset 16 par exemple. « Et Dieu fit les grands luminaires... » Le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Vous voyez, le mot « faire » ici implique que ces choses existaient déjà avant, mais n'étaient pas à leur place. Dieu organise. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le soleil, la lune et les étoiles, et il les dispose dans notre système solaire de sorte que nous arrivons à avoir un équilibre parfait dans un équilibre parfait de vie au sein de notre système solaire. Voilà pour le mot faire. Ça va? Après, il faut nuancer certaines choses, mais disons, je nuance pas tout de suite, parce que sinon, ça fera trop rallonger ma présentation ce matin, ça va être un peu trop lourd, sinon. Ça va, frères et sœurs, vous me suivez, jusqu'à présent, on est ensemble, on voit un petit peu le cheminement dans lequel on se trouve. Ok. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul récit de la création dans le livre de la Genèse. Les commentateurs théologiens, ils disent qu'il y a deux récits. En fait, il y a trois récits de la création. Le premier récit, vous le connaissez, on l'a lu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, vous connaissez. Les cieux et la terre, c'est-à-dire donc, voilà, une création au départ. Dieu crée l'univers et la terre. Il a créé, c'est-à-dire il a amené à l'existence à partir de rien. Ensuite, le deuxième récit, nous connaissons bien, Genèse chapitre 1, versets 2 à 31, ce sont les six jours de la création. Et là, nous constatons qu'on démarre avec la terre et on termine avec l'homme, avec la création de l'homme. Okay? C'est les six jours de la création. Le troisième récit a été lu tout à l'heure par notre ami Jean au chapitre 2. Regardez le verset 4 du chapitre 2. La Bible parle comme si on ne nous avait rien dit au départ. On recommence le récit de la création. Mais regardez bien. Hein, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, verset 4. C'est pour nous dire qu'il n'y avait pas d'homme. Mais verset 7, on passe immédiatement à la création de l'homme. Et ce récit va aller jusqu'au chapitre 3 et le verset 24, va partir de l'homme pour aboutir jusqu'au péché. Et vous avez ici, frères et sœurs, une structure par crochet. Je vais l'appeler comme ça. Ça veut dire que les révélations vont se poser en crochet. Là où un récit termine, commence l'autre. Là où l'autre récit termine, commence le suivant. Et pour vous mener à une chaîne. Quelle chaîne? Quel est le but du récit de la création dans le livre de la Genèse? Ce n'est pas un but scientifique. C'est un but, son objectif, c'est pour nous révéler quelque chose d'autre. Quoi? Par exemple, mais ici, que le péché a contaminé l'homme, qui a contaminé toute la terre et qui est devenu l'affaire de tout l'univers. Vous voyez, donc vous partez du bas et vous remontez. Parce que Jésus va se faire homme, et qu'est-ce que Jésus fait? Il ramène le problème du péché de l'homme au centre de l'univers, c'est-à-dire là où est le trône de Dieu, et il va résoudre. Donc ça veut dire que les péchés confessés par les chrétiens, les croyants, sont amenés jusque devant le centre de l'univers. Et d'ailleurs, c'est tout le système du sanctuaire céleste. Hein. Je vous rappelle que le sanctuaire céleste nécessite une purification à cause de cela, justement. Vous voyez, comme si quelque part, ce texte de la création, c'est pour dire à l'homme que vous n'êtes pas seul, que le ciel, que l'univers tout entier est engagé dans le problème, dans le drame que vous pouvez vivre sur cette terre. On participe à ce drame-là. Et après, on peut développer autant qu'on veut. Hein, là, on est entre nous. Je partage ça, ces choses comme cela, entre nous. Vous voyez, comment le péché de l'homme arrive à l'univers. Mais il faut juste savoir ceci, hein, c'est que, en fait, le problème du péché a commencé près du gouvernement de Dieu avec quelqu'un qui s'appelait Lucifer et qui est devenu Satan. Le problème du péché a commencé ici. Et le fait, c'est ça, c'est que le péché a commencé ici, dans le ciel, en quelque sorte, et le diable a réussi à ramener le problème du péché sur la terre. Que fait Dieu? Jésus, il se fait homme, et Jésus ramène le problème du péché de l'homme devant Dieu. Et c'est devant Dieu que le péché sera résolu, le problème du péché sera résolu. Jésus reviendra, vous connaissez tout le système du sanctuaire, n'est-ce pas? Jésus reviendra et Satan sera éliminé sur cette terre. Le problème du mal, de l'univers, le problème du diable et de ses anges, ça va être résolu sur cette terre, sous vos yeux. Alors, je ne sais pas si c'est un honneur, mais voilà ce que je prends comme honneur. Mes amis, Jésus s'est fait homme. Jésus s'est fait homme. Et vous ne pouvez pas imaginer que dans ce vaste univers que les scientifiques n'arrivent même pas tellement, notre cerveau se trouve être limité, okay, dans cet univers tout entier, Dieu s'est fait homme. Et c'est unique dans l'histoire de l'éternité. Car Jésus ne se fera jamais en une autre créature. Aucune autre planète, aucune autre créature ne se verra l'honneur de dire que Dieu s'est fait et devenu comme moi. Et j'ai vu ce matin, lorsque nous étudions la création, et que cela nous ramène à la rédemption, que vous puissiez ne jamais oublier l'honneur que le ciel a fait à la terre. Et cet honneur, nous la porterons, nous, un honneur, nous porterons cet honneur pour l'éternité. Et le ciel tout entier va toujours nous envier cela, que Dieu lui-même est devenu comme nous. Ok, je ferme la parenthèse parce qu'il fallait quand même que je le fasse pour que... Ah ben quand on va présenter les conférences, il faut quand même que nous disions aux gens que la création donne une vraie valeur aux individus. L'évolution ne donne aucune valeur à l'individu. C'est bon? On peut être d'accord sur cet aspect-là. Bien. Voilà donc ceci. Alors, nous réfléchissons toujours hein, donc avec l'ensemble de ce schéma que nous avons ici. Alors, voilà. Écoutez bien. Vous avez ici... Ça, la création initiale. Dieu a tout créé au départ comme un cadre et il l'a laissé là. Si les scientifiques trouvent 4 milliards d'années, ils peuvent trouver 10 milliards d'années, ça ne change rien. De toute façon, la Bible ne nous a pas donné de chronologie concernant la création à partir de rien qui se trouve ici. Par contre, dans le deuxième récit de la création, là nous avons une chronologie et c'est là que nous, puisque nous ne faisons pas d'amalgame, nous réagissons et nous disons, ça par contre, ça c'est une création récente. Cette création-là, frères et sœurs, c'est une création complète, intégrale. Si ça c'est la création initiale, matériaux bruts, sans vie, je vous rappelle que les minéraux ne sont pas créés dans les 6 jours de la création, ni l'eau. Tout ça, ça appartient à l'ancienne création que vous avez ici. Cette création-là, elle est intégrale, elle est complète. C'est la semaine des 6 jours de la création. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est bien, c'est que Dieu a aménagé, dans ces 6 jours de la création, à partir de matériaux qui étaient plus anciens. Il y avait ici de la matière primitive inanimée. Dieu utilise cette matière qui était ici et qui date, ben tant pis, ils peuvent dater le nombre d'années qu'ils veulent, mais Dieu va utiliser ici dans cette semaine, il va organiser tout ça, et ça c'est récent. Je vais illustrer cela pour que vous compreniez. Imaginons, il y a 50 ans de cela, vous dites, ah je vais construire une maison, mais vous n'avez pas les moyens. Et puis quelqu'un est généreux avec vous et dit, écoute, j'ai beaucoup de pierres, beaucoup de tôles, beaucoup de bois, j'ai tout un système de menuiserie, ouverture, fermeture, écoute, je te donne tout ça, ok, prends-le, j'en ai pas besoin, tu peux construire une grande maison de 100 mètres carrés là-dessus, ok, vous prenez, vous stockez tout ça et vous arrivez à le conserver, vous dites, bon ben j'ai pas le temps maintenant, mais je le ferai plus tard, et finalement le temps passe, vous êtes en pleine force de l'âge et vous travaillez, donc voilà, et vous arrivez à la retraite, 50 ans après, vous êtes à la retraite. Vous dites, ben, je vais construire ma maison. Alors, vous prenez le matériel bien conservé, la pierre, le bois, la tôle, les fermetures, vous montez la maison, vous mettez là. Ah, la maison maintenant, elle vit, elle a une identité. Un groupe de touristes passe par là. Et dans ce groupe de touristes, là, ils regardent votre maison, il y a un ingénieur, un spécialiste en matériaux de construction. Il regarde votre maison, ça, et il dit aux autres, vous savez, cette maison-là a été construite il y a 50 ans. Ah bon, comment tu sais ça? Ben oui, parce que la pierre artificielle, depuis 50 ans, ne le fabrique plus comme telle. Et la tôle a changé aussi les normes depuis 50 ans. Ensuite, le bois de la maison, c'est un bois extrêmement rare. Ça coûte les yeux de la tête pour avoir une telle quantité. Ben, il n'y en a plus maintenant. Donc, avant, on pouvait construire avec ce bois-là. Et le système de fermeture, il y avait un seul artisan qui fabriquait cela, les accessoires. Et voilà, tout ça. Donc, voilà. Donc, la maison a été construite il y a 50 ans. Voilà ce que l'ingénieur dit. Tout le groupe va dire, ben, OK, puisque c'est un spécialiste qui parle, c'est un scientifique qui parle. Tout le groupe dit, OK. Comment ce groupe va savoir que cette maison n'a pas été construite il y a 50 ans, mais que cette maison a été construite l'année dernière? Ben, vous, le constructeur, le propriétaire, vous arrivez, vous dites, pas du tout. Vous allez donner une révélation que cette maison, je l'ai faite l'année dernière. Comprenez ce qui se passe? C'est exactement le même système avec la création. C'est une création récente, mais avec un matériau qu'on peut dater beaucoup plus ancien. Et cela plonge effectivement les scientifiques dans des chiffres vraiment astronomiques. Voilà l'illustration. Et l'autre point, frères et sœurs, qui pose problème aux scientifiques, c'est ce qu'on appelle la création adulte. Je suis ici, je suis toujours là parce que c'est ça particulièrement qui nous intéresse. Création adulte ou mature. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, par exemple, quelque chose n'existait pas il y a un instant. Dieu, par sa puissance, le fait apparaître et ça existe dans l'heure qui suit. Mais avec quel âge? Et c'est là que les créationnistes s'appuient ce qu'on appelle l'âge apparent. Il y a un âge réel et un âge apparent. Je vais vous donner un exemple rapidement. Jésus, c'est l'exemple de miracle, par exemple. Jésus, au noces de Cana, va changer l'eau en vin. Ok, c'est le bon jus de la vigne, puisque anciennement, il savait conserver tout ça. On fait goûter. Imaginons que quelqu'un, un spécialiste, goûte ça, et dit, c'est extrêmement bon. Et pour avoir un jus comme ça, il faut au moins 6 mois de conservation bien gardé pour avoir ça. Et on arrive, on lui dit, c'est pas du tout. Il y a 1 minute, c'était encore de l'eau. Et on vous dit, tu te moques de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, il y a un âge apparent. En fait, quelque chose qui n'existait pas, quand ça apparaît à la vie, c'est comme si c'était plus âgé. Vous voulez un autre exemple? Les miracles de Jésus. Ou alors, imaginez, vous faites un accident, vous brisez les deux jambes. On fait la radio, tout ça, le médecin, le spécialiste, regarde, dit, écoutez, monsieur ou madame, voilà, on va essayer de vous remettre tout cela, mais ce n'est pas avant 10 ans que vous allez pouvoir marcher. On regardait la radio, vous êtes brisé complètement, on pourra rééduquer tout ça, mais ça va prendre 10 ans. Vous êtes adventiste, on prie, l'église prie, vous-même vous avez la foi. Et voilà, dans l'heure qui suit, par vos prières, vous marchez. C'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui aurait dû durer 10 ans a été ramené à 1 minute. Vous êtes debout. Le médecin va être surpris forcément. Mais voyez, c'est ça. Qu'on appelle l'âge apparent. Quand Dieu intervient, ça se met automatiquement en mode adulte, quoi, en quelque sorte. Ou si vous voulez un dernier exemple, imaginez que vous êtes, posez un scientifique dans le jardin d'Éden. Voilà, Adam. Dieu crée Adam. Adam se lève et il vient vers le scientifique. Il pose la question scientifique, quel âge il a? Puis regarde la dentition, tout ça, l'âge et tout, il fait des prélèvements et tout, il dit, il a 35 ans exactement. J'ai dit 35 ans, je dis ça comme ça, j'aurais pu dire autre chose, mais vous comprenez, pour les besoins de la démonstration. 35 ans. Et vous dites au scientifique, tu sais pas du tout, il a 1 minute. Oui, c'est pas notre langage, on est surpris, c'est quoi ce langage-là? Il va dire, oh, tu te moques de moi. Cet homme, il a fallu 35 ans pour faire un homme comme ça. Vous dites, non, il a paru à... Et vous savez, ici ce matin, nous sommes dans ce lieu en train d'adorer le Dieu créateur. C'est bien parce que nous croyons à cela. Alors les scientifiques vous disent, écoutez, nous quand on date, on voit des choses qui sont des chiffres qui sont longs. Alors ne nous racontez pas que ces choses sont d'activité récente. Donc les scientifiques, eux, ils rejettent complètement la position biblique, chose que nous croyons. Et vous savez, la datation radiométrique pose sérieusement de problèmes et nous pourrions réfléchir un moment sur cela. On nous bombarde dans les livres, les enfants, il y a encore un zoo des dinosaures que j'ai vu à la télé, vous avez dû voir ça sur Antenne Réunion, un zoo des dinosaures et les enfants sont émerveillés, etc. Voilà. Quand on nous présente les fossiles, on pense souvent, parce qu'on nous par manque d'informations, que les fossiles sont les os de ces dinosaures, brontosaures, tyrannosaures ou ptérosaures, comme on a ici. Ça, c'est le dernier qui a été découvert, le squelette découvert au Brésil. Ça se trouve au musée du Brésil. On fait la reconstitution en grandeur nature. En fait, quand on parle de fossiles, qu'est-ce qu'on a découvert exactement? Vous avez là-haut un dinosaure. C'est immense. Ça fait des 20 mètres de long, 25 mètres de long et tout ça. Okay? Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est un processus de fossilisation, comme on dit. C'est-à-dire que imaginons, voilà, l'animal est mort. Si ça se fossilise, ça veut dire que l'animal a été recouvert par quelque chose, le tissu biologique, la matière vivante de l'animal meurt, mais il reste le moule en quelque sorte. Pourquoi? Parce que la matière vivante d'un animal, d'un végétaux ou quoi que ce soit, ou d'un humain, ne reste pas. mais donne sa forme, son empreinte en quelque sorte, qui devient comme un moule. À partir de ce moule-là, eh bien, on reconstitue, c'est-à-dire on utilise de la matière comme résine de polyester, par exemple, ok, voilà. Et si vous voulez, ben, ce que vous voyez exposé, personne n'a des os d'un dinosaure ou d'un brontosaure, ça n'existe pas. Ce qui reste, ce qu'on a, c'est une reconstitution. Donc, on reconstitue ça. Alors, la question est ceci, c'est que quand on fait la datation radiométrique, si je n'ai pas la matière organique vivante, un tissu, un os, cellule ou quoi que ce soit, ben, je suis en train de calculer quelle date alors. Alors vous comprenez qu'il y a là un sérieux problème, qu'en fait, c'est plus l'âge de la pierre, des minéraux, qu'on est en train de nous donner, que l'âge véritable de l'animal qui a vécu à ce moment-là. Voilà pourquoi on arrive à des chiffres jusqu'à donc des millions d'années lorsqu'on parle de ces animaux-là. Donc ça pose véritablement un problème. Nous sommes ici donc avec une fascination que ces fossiles exercent. On nous donne des chiffres très reculés et on nous dit, vous voyez, on a les preuves que effectivement ça remonte très longtemps. Ok, ben évidemment, ben ces preuves, ces fossiles se trouvent dans des couches géologiques. Ben qu'est-ce qu'on calcule? On calcule plus la couche géologique que véritablement l'animal même. Ben du coup, comme nous sommes d'accord que effectivement, il est très possible que la planète Terre et tout ce qui s'en suit, ok, la matière brute date de 4 milliards d'années, mais pas le reste, pas les animaux, pas les végétaux, pas l'homme, surtout pas. Alors là, donc vous comprenez donc quel problème se pose ici devant nous. Donc voilà. Alors dans ma dernière partie de ce matin, et j'attends votre réaction plus tard, hein, on va avoir l'occasion d'en discuter de cela. Maintenant, allons-y, quel était le plan de Dieu pour l'homme qu'il a créé? Je vous ramène au quatrième jour. Et quatrième jour, dans le plan de Genèse, chapitre 1, versets 14 et 19. C'est le quatrième jour, hein, on connaît, mais on le prend quand même pour voir. Voilà. Il nous dit que Dieu fit la lune et les étoiles. Hein. Nous sommes ici avec l'apparition ou la création, parce que c'est pas faux hein, d'utiliser le verbe création, même si on a utilisé le verbe faire. Okay. Vous avez donc la terre avec une présidence de la lune et des étoiles. Regardons un moment ça. Quel se trouve être l'objectif que Dieu avait fixé pour la lune et les étoiles? La lune et le soleil, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Voilà le premier objectif de la lune et du soleil. Séparation du jour et de la nuit. Deuxième objectif, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Voilà le deuxième objectif, des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Troisième objectif, le verset 15, et qu'il serve de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Objectif, éclairer la terre. Verset 16. Dieu fit les grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Donc, il préside le jour et la nuit. Voilà. À quoi servent la lune et le soleil? La lune et le soleil sont au service de la terre. Parce qu'en fait, ils sont au service de l'homme. La terre, ça ne vit pas. Donc, l'homme va avoir à sa disposition la lune et le soleil pour la séparation du jour et de la nuit, pour des signes, pour marquer les époques, pour éclairer la terre, pour qu'il soit éclairé, et pour avoir un repère au niveau jour et nuit. Incroyable! La lune, le soleil et les autres étoiles sont au service de l'homme. L'homme est en position de dominance. Qu'est-ce que le diable va faire? C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie va inverser les choses. C'est que l'homme sera au service de la lune, des étoiles et du soleil. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est l'adoration des astres que Dieu pourtant a mis dans notre système solaire pour servir l'homme. Avec la création, c'est l'homme qui est en dominance, position de dominance. Avec l'idolâtrie, l'homme est en position de dominer. Vous pouvez imaginer comment on peut adorer des éléments qui sont à notre service et qui sont là pour nous indiquer l'heure, le jour, le mois, l'année. C'est comme si vous mettez un calendrier là, un réveil, et puis vous vous prosternez devant. Ce serait presque aussi ridicule que cela. Mais pourtant, pour le ciel, ces astres immenses qui font l'admiration de l'homme n'ont pas d'autre objectif que cela. Très, très essentiel. Vous pouvez imaginer alors l'ampleur que l'être qui adhère aux choses de la Bible, il dit, comment, c'est pas possible, je suis maître de ces choses-là. Oui, mon ami, tu es maître de ces choses que Dieu a placées là. Tout le système solaire est au service de l'homme que Dieu a placé comme couronnement de sa création. Et du coup, la question se pose alors, puisqu'on a parlé des dinosaures tout à l'heure, c'est-à-dire les reptiles géants, est-ce qu'ils ont existé? Pour comprendre, et avant d'y arriver, chaque fois, Dieu va ponctuer chaque jour de la création avec « cela est bon » et « cela est même très bon ». C'est-à-dire, cela est conforme à, voilà là, une transcription littérale. C'est-à-dire que lorsque Dieu rend l'homme maître de tout l'univers, maître de tout son univers à lui, local, hein, c'est bon, c'est conforme. Que le soleil ou la lune obéissent, c'est une façon de dire, ils n'ont même pas à obéir, ils ont à faire ce qu'on leur a assigné, c'est tout. Mais ce qui a la valeur là, c'est l'homme. Okay. Les dinosaures. Okay. Est-ce qu'ils ont existé? Ben, on a retrouvé les traces. Donc, ils ont existé. Nous ne pouvons pas nier. Il faut savoir que maintenant, les fossiles de ces reptiles géants, okay, ça ne date pas longtemps qu'on les a trouvés. C'était au 19e siècle. Hein, mais on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Donc, ils ont existé. Il y a des animaux qui ont existé et qui n'existent plus. On retrouve les traces. Ce qui crée notre émerveillement ce matin, c'est cela, mes amis. Car ces géants, ces reptiles géants, étaient au service de l'homme. Vous pouvez dire à un dinosaure, un brontosaure, tyrannosaure, ptérosaure, tout ce que vous voulez, ok? L'homme disait, viens ici, et il vient. Parce que tout cela, c'est aussi ça. Obéissez, incroyable pouvoir, la puissance de l'homme dans la création. Alors, la question est pourquoi et comment ils ont disparu? Comment ils ont disparu? Chose, eh bien, nous avons l'événement biblique, n'est-ce pas? C'est lors du déluge. C'était un fracas, la catastrophe planétaire la plus terrible dans le monde, c'est le déluge. Avec le déluge, ils ont été emportés. Nous avons donc cette conviction, ok, cette conviction s'appuie sur le chapitre 9 de la Genèse. Voilà, Dieu a éliminé. La question maintenant, pourquoi avoir éliminé ces reptiles géants? Juste après le déluge, et j'ai mis le texte ici, hein, chapitre 9, verset 2, Dieu dit à l'homme, « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout. » Tout, tout. Quelque chose va changer dans le rapport, dans la relation homme-animal. Mais vous remarquez, hein, ce n'est pas l'animal qui devient un sujet de crainte et d'effroi. C'est l'homme qui devient un sujet de crainte et d'effroi pour tous les animaux. Et le texte rajoute, et ils sont livrés entre vos mains. C'est-à-dire, vous dominez tout. Donc Dieu veut que l'homme, comme initialement prévu, garde la domination de toute chose sur terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi. Les animaux, maintenant, vont trembler avec les hommes. Les hommes ont le pouvoir d'effrayer, de causer la crainte. Là, le rapport va complètement, complètement changer. Mais ça peut aller même très loin. Vous savez, à la réunion, à la crise requin, on pourrait énormément parler, discuter, essayer de voir quelle est la position la plus éthique là-dessus. Mais vous savez, ici, à la réunion, on tend justement à noyer la responsabilité humaine dans le drame qui touche des familles, parce que chaque fois qu'on entend que quelqu'un a été tué par un requin, ou un enfant, ou une jeune fille, ou autre, tué par un requin, c'est quelque chose qui nous fait mal. Maintenant, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui amène les requins à s'attaquer aux humains sur cette côte-là particulièrement? Parce qu'on oublie très facilement lorsqu'il y avait l'abattoir municipal à Saint-Denis et que les hommes, pour faciliter les choses, jetaient les carcasses d'animaux pour trouver le meilleur moyen de s'en débarrasser, jetaient les carcasses d'animaux avec le sang dans la mer. Qui venait se nourrir là? C'était les requins. Les requins avaient été dressés dans leur instinct à venir se nourrir sur la côte de l'île de la Réunion. On les a dressés pour cela. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils continuent à venir chercher ce qu'ils pensent être leur nourriture là. Et malheureusement, vous voyez, les planches des cerfs en dessous ressemblent à ces animaux grassouillés, dodus. Il suffit simplement que le cerfeur soit allongé dessus et remue ses mains, ok, ou soit assis et remue ses pieds, pour que le requin, il pense que c'est sa proie, il pense que c'est l'animal. Mais il faut savoir, et cela est démontré, que les requins n'aiment pas la chair de l'homme. Donc quand il s'attaque à l'homme, il croit s'attaquer, parce qu'il ne s'attaque jamais par méchanceté, mais toujours pour se nourrir. Et vous me dites, écoutez, je ferme la parenthèse, hein, mais c'est pour vous dire qu'on tue plus les requins dans le monde que les requins ne tuent les hommes. Il faut le dire. Donc on va massacrer les requins, et ok, voilà. Mais c'est un exemple pour vous montrer comment finalement l'homme va dresser les animaux pour finalement, quand l'animal va se défendre, ça peut donner des drames extraordinaires. Alors, mais regardez bien, l'homme est en position de dominance. Tout cela, ils sont livrés entre vos mains. Qu'est-ce que vous allez faire avec cela? Alors, regardez bien, quels sont les animaux donc que Dieu a laissés? On sent qu'il y a un rapport. Lorsque on regarde, on dit, voilà des animaux, des reptiles géants dociles. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus après le péché? Vous avez des représentations artistiques, évidemment, okay? Parce que je ne sais pas s'ils ont existé comme ça, mais voilà, l'imagination artistique des hommes les recouvre d'une certaine plastique. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que la dentition est réelle. Les muscles et la force et l'agressivité de ces animaux se trouvent être réels après le péché. Alors, mes amis, nous pouvons comprendre, si Dieu garde le plan que l'homme doit dominer les animaux, en fonction, il peut dominer en fonction de la masse corporelle d'un animal. Donc, la question se pose, pourquoi Dieu a éliminé les reptiles géants qui sont devenus de redoutables prédateurs? Parce qu'il aurait été impossible pour l'homme de les contrôler et de les maîtriser. L'homme aurait été en danger constant. Oh, il ne faut pas que l'homme soit en danger. Il faut, Dieu va au maximum, je dis bien au maximum, protéger l'homme, parce que l'homme doit accéder au salut, ce sont les hommes. Je vais vous donner un exemple très simple, ok? Imaginons que vous apprenez qu'un lion, un léopard, un ours, hein, c'est, vient de s'échapper là, il est là, dans la région là. Attention, il est dangereux, il a faim, il n'a pas mangé, ok. Et là, ce n'est pas une histoire pour les enfants, là, c'est un danger qui est réel. Vous êtes là, dans ce lieu, qu'est-ce que vous faites? Fermez les portes. Vous fermez les portes, c'est bon. Le lion, le léopard, tout ça, il ne va pas vous accéder. Mais mes amis, si un dinosaure, avec cette intention comme on voit, okay, un tyrannosaure, hein, qui mangeait les humains, paraît-il, okay, s'est échappé. Vous dites, attention, il est là. Alors fermez toutes les portes que vous voulez. Okay. À coup de queue, à coup de muscle, il va vous défoncer votre église. Et c'est fini. L'homme ne peut pas avoir le contrôle. Et c'est pour ça que je pense que le plan de Dieu était bien fait en éliminant les grands prédateurs que l'homme n'aurait jamais pu contrôler, parce qu'il y en a là-dedans qui volaient aussi. Ça, c'était le plan de Dieu. Et on comprend, tout cela s'ajuste. En fait, lors du déluge, quand Dieu a fait demander à Noé de faire entrer dans l'arche, c'est une sélection. On retrouve l'idée de sélection au chapitre 9, justement. C'est seulement des... L'homme peut contrôler un lion, l'homme peut contrôler les serpents, il peut contrôler un ours, même si celui-ci contre lui est prêt à... Mais l'homme n'aurait jamais pu contrôler ces de tels animaux. Donc, tout a été fait vraiment jusqu'à... par après pour l'homme. Donc terminons, si vous voulez bien. Okay. Les scientifiques, eux, ils vous disent que les dinosaures, les grands reptiles, les reptiles géants, ont été éliminés parce qu'il y a eu, il y a 800 millions d'années, parce qu'avec eux les chiffres, hein, il y a eu une pluie de météorites qui les a anéantis, détruits. Destruction totale, ok? Parce qu'on a trouvé des traces dans le sol d'une pluie de météorites. Ok? Alors, moi, je dis que le déluge les a détruits. On me dit, le déluge, la Bible, oh, ça, c'est de la mythologie, c'est de la légende, tu es fou. Mais ça, c'est de la science. C'est même pas la science-fiction, ça, c'est de la science. Vous savez qu'il y a plus de preuves d'un déluge universel qu'une pluie de météorites universelle qui aurait détruit les animaux. Mais c'est comme ça, parce que c'est la science. Alors, terminons le psaume 8. Sur cette valeur que Dieu accorde jusqu'à aujourd'hui l'homme, jusqu'au point où Jésus s'est fait lui-même homme malgré l'extrême ou la terrible méchanceté. Et puis, chapitre 8, verset 4, on connaît le texte. Quand je contemple quoi? Les cieux, ouvrage de tes mains. La lune et les étoiles que tu as créées, vraiment, qui créées. Donc, eh bien, nous sommes dans le Genèse 1, verset 1. La lune et les étoiles ont été créées. Ça a été créé donc bien avant. Je contemple cela. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait. Tu l'as fait. De peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Voilà donc, on comprend, l'homme qui est si petit, si insignifiant, c'est lui qui est à l'image de Dieu. C'est lui qui est couronné de gloire. C'est lui qui a la domination. Mais il y a de quoi, mes amis? Il faut que ce matin, quand vous quittez ce lieu, quelle poste que vous avez retenu ou pas retenu de tout ce qu'on a échangé, ça importe peu. Mais si vous retenez que aussi petit et insignifiant que nous sommes, nous avons une si grande valeur aux yeux de Dieu. Alors, on regarde, on admire toutes ces choses-là, on dit, mais qu'est-ce que l'homme? Mais qu'est-ce que je suis, Seigneur, pour que tu te souviennes de moi? Et pourtant, Dieu se souvient de nous, et il nous a donné la domination de toutes choses. Et on comprend le verset 10, mes amis, c'est le verset du sabbat. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Normalement, s'il n'y avait pas eu le problème du péché, de par la création, l'humanité, chaque sabbat, on serait éclaté, explosé avec un verset comme tel, avec que ton nom est magnifique, parce que nous sommes si petits, et toutes ces choses immenses dont nous avons le contrôle absolu dessus. Et pourtant, mes amis, c'est le plan que Dieu nous propose. Plan extraordinaire, merveilleux, que l'éternité, c'est cela. L'éternité ne suffira pas, n'est-ce pas, pour essayer d'imaginer ce que pourrait être l'homme avec une si petite, mais avec une si grande valeur. Alors, la création, c'est cela. Le message de la création, c'est cela. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut aller donner ce message-là aux gens? Qu'ils ont besoin de retrouver un sens à leur vie, eux qui ont perdu complètement tout sens à leur existence. Moi, je le crois. Mes amis, Dieu a béni l'Église Adventiste, lui a donné un message merveilleux. J'attends votre réaction. Maintenant, nous aurons l'occasion d'en discuter. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h30 et à 14h30 pour ceux qui doivent être ici pour cette commission. Mais que d'ici là, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre repas, votre nourriture aussi. Okay, que vous soyez bénis en tout cela avec un sabbat aussi extraordinaire que Dieu nous a donné. Amen.